Pour cette conférence, j'aurais pu vous parler de la vie de château en Normandie, puisqu'évidemment elle a aussi existé. Mais les données qui concernent les résidences médiévales de la région sont pour le moment extrêmement partielles. Et si on veut vraiment parler de tous les aspects de la vie quotidienne, il n'y a pas de mystère. Un château, il faut le fouiller entièrement. Et donc, je vais plutôt que de la Normandie, je vais plutôt vous emmener un peu plus au sud, dans des contrées qui pourront vous paraître un peu exotiques peut-être, c'est-à-dire sur les bords du fleuve Charente, pour vous présenter ce qui reste aujourd'hui la seule résidence princière des environs de l'an 1000 qui ait fait l'objet d'une fouille complète. Mais malgré tout, par bien des aspects, le tableau que je vais pouvoir dresser, il s'applique en grande partie, il pourrait être transposé sur les rives de la Seine, par exemple. Plantons d'abord le décor. Le site est le site d'Andonne, qui est cette petite butte boisée que vous voyez ici au premier plan, qui a été relié plus tard, on le verra, par une résidence de la fin du Moyen-Âge, le petit château de la Barre. Et puis, un peu plus loin, vous voyez un village, qui est un village de création médiévale du XIe siècle, mais qui est implanté au milieu d'un grand axe routier majeur, qui est la grande voie romaine qui partait de Lyon, capitale des Gaules, et qui allait jusqu'au bord de l'Atlantique. Et puis un dernier élément du décor, un peu dans la brume au fond, c'est une forêt, la forêt de la Bouaxe, dont on verra l'importance dans l'histoire de ce site. Le site a été découvert grâce à un texte, sur lequel je reviendrai, par André Debord, un historien archéologue médiéviste qui a travaillé longtemps à l'université de Caen et qui a effectué sur ce site 25 campagnes de fouilles, des campagnes annuelles, entre 1971 et 1995. Hélas, André Debord est décédé juste après la fin de ses travaux, et après quelques années de latence, l'étude du site et sa publication ont été reprises par une autre équipe que je coordonnais pour faire deux campagnes complémentaires de fouilles, et puis surtout travailler sur la masse absolument considérable de mobilier découvert sur le site. Là, j'ai mis quelques chiffres indicatifs, à peu près 500 000 objets et fragments qu'il a fallu traiter, plus de 800 restaurations et analyses de ces objets, et puis tout ça pour travailler pendant 8 ans avec 35 ou 36 personnes spécialisées dans un domaine ou un autre, et aboutir à une publication. Alors, je cite ces chiffres uniquement parce qu'ils sont peut-être un peu déprimants. Ça veut dire que dans une carrière d'archéologue, on ne peut fouiller entièrement qu'un seul site comme ça. Et ça explique aussi pourquoi il y a aussi peu de sites qui sont totalement fouillés aujourd'hui et qu'on a toujours des fouilles qui sont partielles, qui durent quelques années, mais qui ne vont pas au bout de ce type de recherche. Et donc, sur ce point-là, déjà, ce site est tout à fait exceptionnel dans l'histoire récente de la recherche. Alors, à propos d'histoire, avant de parler plus du quotidien dans cette résidence princière, quelques mots du cadre historique, justement. Nous sommes donc sur les bords de la Charente, dans le centre-ouest de la France, au cœur de ce qui est aujourd'hui le département de la Charente, dont le chef-lieu est Angoulême. C'est un petit territoire dans l'Antiquité comme au Moyen-Âge. Ça devient un chef-lieu de cité à la fin de l'Antiquité, très tardivement, et puis ça devient plus tard un comté, donc dirigé par ces personnages qui ne sont longtemps que des fonctionnaires issus du nommé par le pouvoir et qui prendront leur indépendance par la suite. Pour le site qui nous intéresse, quatre personnages ont un intérêt. Le premier, c'est un personnage qui s'appelle Vulgrin, un nom bien germanique. Effectivement, il vient des bords du Rhin. C'est un personnage qui apparaît à l'année 866, qui est une année au milieu de la guerre civile entre les membres de la famille carolingienne, et des ordres dont profitent les Vikings qui remontent le fleuve Charente à peu près tous les ans pour piller ce qui se trouve sur ses bords. Dans ces circonstances un peu difficiles, les deux comtes de la région, celui d'Angoulême et celui de Saintes, ne trouvent pas mieux à faire que de s'affronter dans une bataille où ils meurent tous les deux. Et donc, le roi qui tient cette région à ce moment-là, qui est Charles le Chauve, est obligé de changer complètement son personnel administratif. Et c'est là qu'il va chercher ce Vulgrin qui est apparenté de manière lointaine à sa famille et qu'il nomme comme un vieux militaire qu'il est pour contrôler toute cette région, le comté d'Angoulême, celui de Périgueux plus au sud, celui d'Agen encore plus au sud et peut-être celui de Saintes qui n'a plus de comte indépendant à partir de ce moment-là. Vulgrin va être la souche de la famille des comtes d'Angoulême qui va se perpétuer jusqu'au XIIIe siècle pour diriger ce comté. Je ne vous fais pas le détail de la généalogie. Trois autres personnages sont intéressants, les deux derniers en particulier. Le deuxième, c'est Guillaume II Taillefer, un comte qui a décidé en 945 d'abandonner le pouvoir. Il s'est installé dans une abbaye où les comtes se faisaient enterrer, dans la ville d'Angoulême. Et puis, il a laissé son comté, non pas à ses enfants, il n'avait pas d'enfants directs, mais à ses cousins étant les comtes de Périgueux, donc la cité plus au sud. Le choix de Guillaume Taillefer n'a pas beaucoup plu à un personnage, qui est le troisième de ma petite liste, qui s'appelle Arnaud Manzer. On comprend tout de suite pourquoi. Par ce nom Manzer, hein, c'est un nom que vous trouverez dans la Bible, qui désigne un bâtard, et donc visiblement, le comte d'Angoulême n'avait pas voulu que son bâtard prenne la tête du comté. Donc celui-ci a pris la direction des opérations par les armes et est devenu comte d'Angoulême en 975, hein, après avoir battu et tué tous ses compétiteurs. C'est lui qui a créé le site qui nous intéresse, et c'est son fils, qui lui est arrivé de manière beaucoup plus légale, Guillaume IV, hein, qui va abandonner le site, donc un site qui a été occupé de part et d'autre de l'an 1000, uniquement par deux générations, hein, avant de disparaître définitivement de la carte. Ce comté d'Angoulême, aux alentours de l'an 1000, il a évolué. Tout à l'heure, vous avez vu le contour de la cité de la fin de l'Antiquité, qui ici est représenté en blanc. Arnaud Manzer et son fils vont réussir à pratiquement multiplier par deux l'espace du comté, soit par des guerres, soit par des mariages, soit par des donations. À l'intérieur de cet espace agrandi, il dispose d'un certain nombre de châteaux. Les plus nombreux sont dans les territoires qu'ils viennent d'acquérir, puisqu'ils ne sont pas très sûrs de leur légitimité dans ces espaces-là. Et puis à l'intérieur du vieux comté, on a surtout deux résidences, leur palais dans la ville d'Angoulême, dont il reste quelques traces aujourd'hui, et puis, j'ai envie de dire, une maison de campagne, une résidence rurale, qui est le château d'Andonne, qui nous intéresse. Dans cet espace, il y a deux pouvoirs, celui du comte, vous voyez ici la façade du palais comte, de la grande salle du palais comtal dans la ville, et puis un autre personnage important, comme ça a été le cas à Rouen, c'est l'évêque, vous voyez ici sa célèbre cathédrale. Le comte comme l'évêque ont beaucoup de possessions à l'intérieur du territoire. Et quand ils ne s'entendent pas, il y a des zones qui sont particulièrement sensibles. C'est des zones où tous les deux ont un patrimoine qui est important. Ces zones, c'est Angoulême et ses environs immédiats. Et puis, c'est surtout une zone qui est située ici sur les bords de la Charente, qui est la zone où se situe le château qui nous intéresse. Ce château, il est situé dans une zone qui offre un certain nombre d'avantages stratégiques et pratiques. On est dans le secteur qui est représenté ici par le carré gris, où on a un moyen de traverser la Charente par un des seuls ponts qui existent à cette époque-là. On peut aller du nord au sud par des routes anciennes, romaines en général, hein, qui mènent de Poitiers à Périgueux, mais il y a aussi toute une série d'itinéraires est-ouest, de la mer vers le Limousin, qui sont tout à fait stratégiques. Toutes ces routes sont les routes qui permettent de transporter une denrée primordiale, qui est le sel, extrait sur les bords de l'Atlantique, et qui est envoyé après au loin. Et ça, les comtes d'Angoulême veulent contrôler, dans cette zone particulière, le trafic du sel. Si on se rapproche un peu, on a un autre avantage à cette zone. Donc vous avez ici le bord de la Charente, une boucle ici, avec ce carrefour de routes donnant sur le pont, le site d'Andonne un petit peu plus loin. Et puis, cette forêt de la Boixe, un grand personnage du Xe siècle, associe toujours ses résidences à un espace forestier, qui est un espace de chasse. C'est un élément, on le reverra, qui est tout à fait indispensable à son mode de vie. Donc là, il a la forêt, qui est une forêt comtale, et qui le restera pendant très longtemps. Autour de ce site, on a un paysage qui est en gros le paysage actuel. L'analyse des pollens et des graines l'a montré, un paysage qui est déjà fortement cultivé, avec quelques bosquets, quelques haies qui subsistent, des vignes déjà, il en reste encore quelques-unes aujourd'hui. Donc un paysage qui est très ouvert. Ça va un peu à l'encontre de ce qui avait été envisagé à l'origine, où le site était considéré comme une espèce de pavillon de chasse au milieu des bois. En réalité, c'est plutôt le chef-lieu d'un domaine qui est un domaine d'élevage et d'agriculture, comme les autres. Pourquoi est-ce qu'on a fondé un château dans cet endroit dont on verra qu'il n'est absolument pas pratique pour la vie quotidienne ? Alors, il avait été envisagé à l'origine que ce site pouvait être implanté, ici, on ne voit pas beaucoup mon point rouge, ici sur la carte, pour pouvoir contrôler la vieille voie romaine que je présentais tout à l'heure. En réalité, qu'on soit devant la porte du site ou tout en haut de ces murs, on ne peut pas voir cette route. Donc, ce n'est visiblement pas la bonne hypothèse. L'hypothèse qui est la plus crédible, c'est que au moment où Arnaud Manzer commence à essayer de conquérir le comté, il va se trouver face à l'évêque. L'évêque s'appelle Hugues de Jarnac. Il va dilapider le patrimoine de son diocèse pour armer des troupes, se battre contre Arnaud. Et donc, on a une guerre ouverte qui va durer un certain nombre d'années. Or, l'évêque dispose d'un site qui est le site de Montignac, sur les bords de la Charente. Il dispose aussi un peu plus loin d'une résidence, qui va être une résidence de campagne des évêques jusqu'au XVIIIe siècle. Et depuis Andonne, on peut effectivement voir, contrôler ces deux espaces qui dépendent de l'évêque. Donc là, on est dans un château qui a été mis en place dans le cadre d'une confrontation particulière entre deux personnages. L'autre élément important, c'est le fait d'avoir dans cette zone une petite abbaye qui s'appelle Saint-Amand, Saint-Amand de Boix, du nom de la forêt, qui est probablement à proximité du château à l'origine, qui est contrôlée par les comtes. Et le château est aussi une manière de contrôler ce petit monastère comtal. Donc voilà des raisons pour une fondation, le fait de pouvoir embêter le plus possible l'évêque, d'avoir une forêt comtale, d'avoir un petit monastère à contrôler à proximité. Une fois que Arnaud Manzer meurt, son fils prend le pouvoir et un nouvel évêque est nommé. Cet évêque est un très bon ami du comte et désormais, la raison qui avait poussé à l'implantation de ce site disparaît. Les deux personnages s'entendent. Et donc, quelques années plus tard, entre 1020 et 1028, et c'est le texte qu'on a conservé, qui a permis la découverte du site, le comte d'Angoulême, Guillaume IV, fait le choix d'abandonner le site d'Andonne, donc c'est un acte d'abandon, ce qui est extrêmement rare au Moyen-Âge, d'abandonner le site d'Andonne pour aller se déplacer à Montignac, c'est-à-dire sur les bords de la Charente, qui évidemment était un site beaucoup plus stratégique, puisqu'on contrôlait à la fois le trafic sur la rivière, les routes du sel et le passage du pont. À la différence près que à Andonne, le comte était maître chez lui, il était propriétaire, alors que Montignac est tenu par l'évêque et il va devenir un vassal de l'évêque pour le château de Montignac. Donc il ne sera pas vraiment le patron. Mais il a là un site qui est stratégique et puis un grand plateau qui permet d'établir le grand château qu'il n'avait pas pu établir à Andonne. Parallèlement, dans le même acte, on voit un deuxième déplacement. La petite abbaye de Saint-Amand, qui était contrôlée par le comte, devient indépendante. Donc le comte arrête de nommer les abbés, entre autres. Et on en profite pour la déplacer, donc on ne connaît pas l'emplacement d'origine près du site d'Andonne, mais désormais on va la déplacer un petit peu au nord de Montignac, ici, et créer une nouvelle abbaye qui existe encore aujourd'hui et qui est un site intéressant à visiter. Donc déplacement du château, déplacement de l'abbaye, dans la bonne entente du comte et de l'évêque. À partir de là, Andonne disparaît, le site disparaît, on démonte ce qui peut l'être et les ruines restent en place. Et il faut attendre l'extrême fin du Moyen-Âge, les années 1490, pour voir naître un petit château, mais qui est situé à une bonne centaine de mètres de l'ancien site, qui est l'ovale vert foncé que vous voyez ici, et qui va, au fil des siècles, toujours correspondre au même domaine. Ce château est en vente aujourd'hui. Ce qui est vendu est exactement au mètre carré près, ce qui est décrit au XVe siècle dans les textes. Donc un petit château qui a oublié Andonne et qui est beaucoup plus modeste que la résidence comtale. Entrons maintenant dans le site qui n'est pas occupé pour la première fois quand le comte d'Angoulême s'y installe. On a en gros une occupation tous les demi-millénaires. La première est une occupation funéraire du premier âge du fer, avec entre autres des tombes à armes très rares dans cette région. Puis le site est abandonné pour 5 siècles, jusqu'à ce que des gallo-romains y installent un petit habitat assez modeste, hein, une petite maison qui est ici, un bâtiment secondaire de l'autre côté d'une cour qui est vaguement pavée. Tout ceci est abandonné au IVe siècle et il faut donc attendre les environs de l'an 1000, la fin du Xe siècle, pour voir une nouvelle occupation. Et cette fois-ci, c'est bien le château qui est mis en place. Le site est sur une butte qui est une butte naturelle, avec à ses pieds un petit ruisseau et des sources. Le sommet de la butte n'est pas franchement plat, donc il va y avoir des opérations de déblaiement et de remblaiement importantes pour pouvoir installer les différentes structures du site et mettre en place en contrebas les très grands fossés qu'on reverra tout à l'heure. Contrairement à l'idée qu'on se fait souvent des premiers châteaux, Andonne est un site entièrement en pierre, entièrement en maçonnerie. On a peu d'éléments en bois et des maçonneries qui sont relativement imposantes. La construction du site commence par la mise en place d'une enceinte qui a une forme peu régulière, simplement parce qu'elle épouse les bords de cette petite plateforme. La première opération consiste à mettre en place ce qu'on pourrait appeler la cabane de chantier, qui disparaîtra à la fin des travaux, et puis à rechercher de l'eau, qui sera évidemment utile pour faire le mortier. Et on commence donc à creuser un puits, ce puits qui sera très vite abandonné. Les fouilleurs du site ont eu la même mésaventure. Ils ont commencé à vider ce puits, puis sont tombés sur des niveaux de gaz carbonique. Et ils ont dû sortir très vite de cet endroit-là. Donc l'affaire est assez mal engagée, puisqu'on veut mettre en place un château qui nécessite une ressource en eau, hein, en cas de siège, à l'intérieur, et on n'a pas de possibilité d'avoir de l'eau. Donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est aller chercher un puits qui existe déjà, hein, le redégager. C'est un puits qui est juste à l'extérieur du site, mais devant la porte, ce qui évidemment est beaucoup moins pratique. Le site est donc composé d'une grande enceinte et à deux portes, hein, ce qui est relativement rare pour un château, qui ont souvent des portes uniques. On a un accès qui est un accès oriental, menant à un chemin vers Angoulême, que vous voyez ici. Cet accès est précédé par un grand fossé, qui est un fossé sec, hein, il n'y a pas d'eau à l'intérieur, qui fait à peu près 16 mètres de large, donc qui est assez dissuasif, et qui est complété encore par des terres qui ont été accumulées à la base de l'enceinte. Ces terres, elles sont interrompues juste pour un étroit passage. On ne peut pas rentrer avec un chariot dans le site, par exemple, qui permet d'accéder à une porte. Donc ça, c'est la porte la plus chic. Et puis, on a aussi la porte de service de l'autre côté du site. C'est la porte plus petite qui mène au puits, qui est donc juste à l'extérieur, avec le même type de dispositif, hein, une espèce de couloir dans l'amoncellement de terre et puis le pont qui permet de franchir le fossé. La construction est une construction en maçonnerie, extrêmement solide, pas toujours de très grande qualité. Localement, la pierre est un calcaire qui a tendance à se fissurer de lui-même. Et c'est un site où il n'y a pratiquement pas eu de travail de taille de pierre, hein, puisqu'on récupère simplement des plaquettes dans les champs ou dans des carrières qu'on va mettre en œuvre. Donc quelques photos qui montrent ces différents types de mise en œuvre avec des blocs qui ne sont pas toujours de grande qualité. Quelquefois, on rencontre un mur romain, on va pendant quelques mètres utiliser les pierres qu'on a récupérées sur le mur romain. On a quelquefois des mises en œuvre un petit peu particulières, hein, avec cet appareil en arête de poisson très ponctuel. Tout ça est fait dans un certain désordre. On s'aperçoit qu'on a plein d'équipes différentes qui travaillent en même temps. Quelquefois, elles se rencontrent, l'une venant d'un côté, l'autre venant de l'autre. Et puis, ils sont obligés de faire quelques bricolages quand ils arrivent entre les deux parties de murs déjà construites. On a quelques belles pierres taillées malgré tout, mais elles sont limitées aux pierres qui encadrent les ouvertures, les portes et les fenêtres du site. Malgré tout, ces maçonneries sont imposantes. Le mur d'enceinte fait 2 mètres d'épaisseur et les bâtiments qui sont adossés sont des bâtiments dont les murs permettent sans difficulté la construction d'un étage. Sur cette partie de relevé du mur d'enceinte, vous voyez un certain nombre de trous rectangulaires. Ce sont des trous qui permettaient de mettre en place des poutres soutenant les échafaudages. Poutres suffisamment longues pour avoir un échafaudage à l'intérieur et un à l'extérieur. Et là, on voit bien aussi qu'on est sur un chantier un peu désordonné. On a des petites équipes, peut-être pas très professionnelles, qui travaillent un petit peu partout. Et un certain nombre d'anomalies quand ces équipes se rencontrent à un moment ou à un autre de la construction. Donc voilà la majeure partie des bâtiments découverts sur le site, donc une enceinte très vaguement ovale avec ses deux portes, celle de l'est, celle de l'ouest, un chemin qui structure le site et qui permet d'aller d'une porte à l'autre. Dans la partie nord, ici, la partie résidentielle, avec la grande salle et les appartements, et puis de l'autre côté, ce qu'on appellerait les communs dans un château postérieur, c'est-à-dire des structures qui sont beaucoup moins nobles et liées à l'habitat. L'enceinte, on arrive à la restituer, même s'il n'en reste qu'à peu près 4 mètres d'élévation aujourd'hui, par un certain nombre d'éléments. C'est une enceinte qui est extrêmement massive, sans aucune ouverture, sans tour non plus, donc une espèce de carapace qui faisait un peu plus de 11 mètres de haut, avec une défense qui n'était possible que depuis sa partie supérieure, qu'on connaît par quelques blocs comme celui-ci, qui permettent de restituer les merlons et les créneaux. Aux deux extrémités opposées du site, au nord et au sud, des échelles, dont l'une a brûlé, ce qui a laissé des traces le long du mur, qui permettaient d'accéder à ce chemin de ronde de part et d'autre de la cour. À l'intérieur, donc, ces bâtiments en pierre, dans leur état actuel, donc relativement bien conservé pour un site aussi ancien, avec donc la partie nord résidentielle et la partie sud de commun. Sur le plan qui est en bas, on voit aussi beaucoup d'autres structures qui apparaissent qu'on n'a pas toujours pu restituer. Il faut imaginer que dans les espaces de cour, on avait aussi des bâtiments beaucoup plus légers, temporaires, qui existaient et qui remplissaient à peu près tout l'espace. Donc une coquille très haute, aveugle, très pleine aussi de structures. La partie résidentielle, elle est composée d'une pièce avec un étage, qui est une grande salle. Au rez-de-chaussée, on a une salle basse, une espèce de cellier qui est pratiquement aveugle. Et les choses importantes se passent à l'étage supérieur, où là on a la grande salle qui fait à peu près 25 mètres de long. À côté, toujours avec un étage, toute une série de pièces qui ont été interprétées comme les pièces de résidence, légèrement plus privées que la grande salle, si tant est que le terme vie privée ait un sens à cette époque-là, et qui sont associées à deux fosses que vous voyez ici le long de la muraille, qui sont des fosses de latrine, donc vous avez les toilettes au premier étage. La fonction résidentielle de ces pièces, elle est fournie à la fois par leur architecture, qui donne lieu à toute une série de comparaisons à travers l'Europe, mais aussi à leur mobilier. Là, j'ai mis deux dessins qui vous montrent ces mobiliers un petit peu particuliers. C'est là qu'on a trouvé pratiquement toute la vaisselle en verre, qui est la vaisselle à boire. Elle est concentrée à 90% dans ce secteur-là. C'est là qu'on a retrouvé pratiquement aussi tous les jeux de société que je vous présenterai tout à l'heure. Donc on est vraiment dans des activités nobles et résidentielles. Alors le site d'Andonne est figuré ici. C'est par comparaison à d'autres grandes salles de la même époque ou des donjons précoces, puisque si vous rajoutez un ou deux étages à la grande salle d'Andonne, vous obtenez les donjons qui apparaissent quelques décennies plus tard. Donc les comparaisons sont de tout type. Quelques-unes sont des sites qui sont tout à fait extraordinaires. Le cas de la grande salle de Charlemagne à Aix-la-Chapelle, évidemment, elle est hors proportion. Mais globalement, la grande salle d'Andonne n'a pas à rougir par rapport à ses contemporaines. On est vraiment sur une grande pièce de réception qui est tout à fait prestigieuse dans ses dimensions. De l'autre côté, les communs avec 4 pièces, chacune ayant un accès direct vers l'extérieur. La première a livré du mobilier qui peut faire penser qu'on est sur une annexe de l'habitat, qu'on pouvait loger à l'intérieur de cette pièce. La deuxième était totalement vide. Il n'y avait pas un objet dans cette pièce. C'est le seul endroit du site où il n'y avait pas de mobilier, donc sa fonction nous échappe un peu. La troisième, malgré l'étroitesse de sa porte, est très probablement une écurie. Et la quatrième, dans ce renfoncement, a été d'abord une forge et par la suite un espace de réserve où on stockait des céréales, entre autres, dans des grands vases qui étaient enterrés dans le sol. Ici, pas d'étage et probablement une architecture et un décor qui sont beaucoup plus modestes que l'autre partie du site que je viens de vous présenter. Donc il faut rajouter à ça des structures qui nous échappent un petit peu, la présence d'une autre forge sous un petit appentis très léger en bois qui est ici. Le seul élément assuré, c'est près de la porte ouest, c'est-à-dire juste à côté du puits, ce qui est assez logique, l'espace de cuisine qui est abrité dans plusieurs espèces de cabanons assez rudimentaires, avec d'un côté de la porte un très grand four à pain, et de l'autre côté le foyer qui a été le plus utilisé pendant l'occupation du site. Alors, cette organisation paraît pas très systématique. En réalité, elle est quand même très pensée. Si on regarde le fonctionnement du site, vous êtes un invité, vous allez donc rentrer par la porte principale, arriver ici à cheval, vous rentrez dans une petite cour, très séparée du reste, qui est un sas, d'ailleurs, vous avez peut-être même une porte pour rentrer dans la suite. De là, vous allez pouvoir arriver à la grande salle. Si vous franchissez cette porte, vous allez pouvoir accéder aux parties un peu plus privatives de la résidence, accessibles en rez-de-chaussée. Et puis, plus vous vous éloignez vers l'ouest, moins vous êtes dans des fonctions nobles, et on arrive, en fin de compte, à la cuisine et au puits qui sont à l'autre extrémité du site. Donc, on a un espace très noble de ce côté-là, un espace beaucoup moins noble de l'autre côté, avec quelques différences même qu'on retrouve dans la qualité du mobilier qu'on a d'une pièce à l'autre. Sortons un petit instant du site avant d'y revenir, un petit peu par hasard, parce qu'un agriculteur faisait un trou pour récupérer des matériaux, a été découvert juste en bas du site, de l'autre, le site est ici, donc de l'autre côté du petit ruisseau qui coule à ses pieds, une fosse dans laquelle avait été jeté sans ménagement, vraiment jeté, quatre personnages, donc ce n'est pas une sépulture classique. Vous voyez ici en cours de fouille, il y a déjà un des squelettes qui a été prélevé, mais on en voit trois qui effectivement ne sont pas organisés de manière très canonique. Ces personnages sont tous des hommes qui sont jeunes, entre 18 et 25 ans, très grands pour l'époque, plus d'1m80, la moyenne d'un homme à l'époque c'est 1m67, extrêmement musclés vu leurs ossements et qui ne sont pas vraiment morts de mort naturelle puisque tous ont reçu sur la tête des coups d'épée ou des coups de hache, assénés soit par des gauchers, soit par des droitiers. Donc là, on a un épisode militaire qui n'a pas laissé de traces dans les textes de l'époque, mais qui montre que le fait d'avoir une fortification à Andonne a au moins servi une fois pendant l'existence du site, puisque ces tombes sont bien contemporaines des environs de l'an 1000. Après l'abandon du site, celui-ci sert un petit peu de carrière. On imagine qu'on a récupéré ce qui pouvait être intéressant, les poutres des charpentes, un certain nombre d'autres éléments. Le reste n'est pas très intéressant puisque cette petite pierre n'a pas grande qualité et autant aller l'extraire sous le nouveau château de Montignac pour construire le nouveau château. Donc le site tombe dans l'oubli. Et il faut donc attendre l'extrême fin du Moyen-Âge, les dernières années du Moyen-Âge, pour voir une réoccupation. C'est la construction de cette petite maison noble, très peu fortifiée à proximité, qui va occasionner la mise en place d'une structure qui va ne servir que pendant la construction. C'est un four qui sert à la fois à cuire de la chaux et à cuire des tuiles, et qui permettra donc de produire les matériaux pour la construction du nouveau petit château. Une fois que celui-ci est construit, on va avoir un usage complètement différent et qui a donné son nom actuel au site, qui s'appelle désormais la Garenne. C'est une garenne à lapins. Comme les fouilleurs pourraient vous convaincre que l'argile d'Andonne est extrêmement dure, les pauvres petits lapins ne sont pas capables de creuser des terriers tout seuls. Donc on va les aider en mettant en place des terriers artificiels, hein, qui sont des canaux faits avec des pierres dans lesquelles ils peuvent se loger, tout ça étant recouvert de grandes buttes de terre. Il y en a une dizaine autour du site. C'est une prérogative noble, une prérogative seigneuriale. Et on chassait les lapins soit avec des petits chiens, soit avec des furets, hein, qui ont laissé quelques-unes des clochettes qui étaient suspendues à leur cou. Donc voilà un itinéraire descendant, hein, pour un site. On commence par un site princier qui accueille des gens qui ont des relations familiales avec les empereurs carolingiens, et on finit avec quelques lapins quelques siècles plus tard. Revenons à l'intérieur du site pendant son occupation principale. Un des grands problèmes de ce site, c'était l'évacuation de l'eau et l'évacuation des déchets, même si, évidemment, les principes d'hygiène n'étaient pas à l'époque tout à fait les nôtres aujourd'hui. Le mobilier présent et les déchets présents dans le site sont surabondants. J'ai annoncé tout à l'heure des centaines de milliers de vestiges. Donc, on a, j'ai envie de dire, pratiquement jamais sorti les poubelles pendant l'ensemble de l'occupation du site. Ce mobilier, on en a partout. On a, là, c'est la répartition des objets ou des fragments découverts. Ça, c'est la répartition de ce que les archéologues appellent des coprolites. En français courant, on appelle plutôt ça des crottes de chiens. Ces objets, ces déchets, ils se promènent aussi dans l'espace, puisqu'on a réussi à recoller certains morceaux de vase avec d'autres dans d'autres pièces. Donc, il y a des choses qui sont déplacées. Profitent de toutes ces ordures un certain nombre d'animaux très présents dans le site. Le rat noir, celui qui sera par la suite le vecteur de la grande peste, qui est présent effectivement et profite de l'aubaine, mais des chiens aussi qui sont un peu partout, voire des porcs qui sont à l'intérieur du site, puis un certain nombre d'oiseaux, des corvidés, corneilles, choucas, corbeaux, qui planent au-dessus du site pour profiter aussi de tout cela. L'ambiance que je vous décris paraît presque apocalyptique pour un site princier, mais il faut peut-être nuancer un petit peu les choses. On a dans le site un certain nombre de fosses. La plupart n'ont pas servi pour enfouir des détritus, aussi bizarre que ça puisse paraître. À part cette fosse où on a découvert le squelette d'un jeune bovin entier, mais le site est peut-être déjà abandonné ou presque abandonné au moment où on creuse cette fosse. Pour le reste, en réalité, les poubelles ne sont pas visibles à aucun moment de l'existence du site, ou alors en très petit nombre. Comme on a un problème d'évacuation de l'eau avec un site qui est un petit peu en pente, qu'on a une enceinte qui le ferme, l'eau ne peut s'écouler que sous les portes, et le site était sûrement extrêmement boueux dans sa partie basse, on a petit à petit remblayé l'intérieur du site pour qu'il soit plan. Et ce qu'on a fait, c'est répandre les poubelles, puis mettre des couches d'argile qui venaient colmater ces poubelles et les odeurs qui pouvaient aller avec. Et puis, on remettait des cailloux au-dessus. Et petit à petit, comme ça, on est monté de plus d'un mètre dans certaines parties du site. Donc, cette immense quantité de mobilier était en réalité cachée dans toute cette épaisseur, hein, d'épandage à l'intérieur du site. La fouille, mais on ne connaît que ce qui s'est passé au niveau du sol, a livré toute une série de foyers qui sont peu structurés. J'ai évoqué tout à l'heure le grand four et le foyer qui est de l'autre côté, mais on a aussi des petits foyers dans les pièces qui ne sont quelquefois que des foyers ponctuels, peut-être certains n'ont-ils servi qu'une fois, pour amener quelques braises. Le problème étant celui qu'on rencontrera beaucoup plus tard au château de Versailles, c'est la difficulté, une fois qu'on sort les plats chauds de la cuisine, d'arriver jusqu'à l'espace où l'on mange, c'est-à-dire plutôt la grande salle, avec une nourriture qui ne soit pas froide. Donc on envisage qu'il y a un espace de réchauffage des plats avec des braises dans la salle basse, sous la grande salle des comtes d'Angoulême. Il faut aussi imaginer, on a quelques blocs de pierre qui le suggèrent, que dans la partie haute, que dans les salles nobles du premier étage, on avait de véritables cheminées, hein, qui n'apparaissent pas ici au rez-de-chaussée. Un autre problème est l'éclairage, même si on vivait plus qu'aujourd'hui avec le cycle de la lumière du jour. L'éclairage a laissé toute une série d'éléments qui sont des lampes, hein, lampes à huile ou lampes à suif, soit en terre cuite, soit en pierre. quelques-unes fabriquées directement sur le site, des éléments liés à des cheminées. Hein, le fait d'avoir un élément de chenet fait penser à une cheminée. Et puis des éléments qui sont liés aussi à la cuisine au feu, des fourchettes pour récupérer les morceaux de viande dans le chaudron, un briquet pour allumer le feu, avec de l'amadou par exemple. Ce qui montre aussi qu'au-delà de son architecture, ce site est tout à fait privilégié, c'est la présence d'un certain nombre d'éléments de verre à vitre exceptionnels à cette époque-là. Verre à vitre qui se limite à quelques ouvertures du bâtiment principal, du bâtiment résidentiel. Un autre élément très marquant qui montre que les propriétaires ont des choses à mettre à l'abri, c'est la quantité tout à fait considérable de clés. Alors, on n'a pas de clés du château, hein, les châteaux ont quelquefois des clés symboliques, mais pas de clés réelles. Les portes du château se ferment par des barres qui sont placées à l'arrière. En revanche, on a toute une série de portes, et puis de coffres en particulier, plus d'une centaine de clés découvertes, ce qui a permis, avec tous les éléments des serrures, de reconstituer celles-ci en détail. Serrures très différentes des nôtres, d'ailleurs, hein, puisque on ne peut les utiliser que d'un côté de la porte. Donc, soit vous vous enfermez chez vous, soit vous fermez votre maison quand vous sortez, mais vous ne faites pas les deux en même temps avec ces serrures-là. Ces serrures, entre autres, elles servent à fermer ce qui est le mobilier principal. Le mobilier du Xe ou du XIe siècle est assez limité. On dispose de coffres qui servent à tout, hein, y compris à ranger des céréales, des réserves, à ranger l'argent, à ranger les vêtements. Donc tout peut rentrer dans un coffre. On a des tables, mais les tables sont des tables sur tréteaux, hein, c'est-à-dire, et les textes nous le disent bien, qu'on dresse la table, on a gardé l'expression pour le repas, sur des tréteaux et des planches, avec une nappe qui cache un petit peu tout ça. Et puis on démonte ça après le repas. Des lits qui ne sont pas toujours de très grande qualité, des sièges, et puis c'est à peu près tout. Il faut aussi penser que le comte d'Angoulême n'est pas sans arrêt dans son château. Il dispose de toute une série de résidences et tous ces grands princes, ça sera le cas jusqu'à la Renaissance pour les rois de France, vont de résidence en résidence avec leur suite, mais aussi avec pratiquement l'ensemble de leur mobilier. Donc on peut imaginer que la plupart du temps, le château d'Andonne était à peu près vide. Et qu'ils arrivaient avec leurs coffres, leurs tables, leurs tapisseries pour garnir un petit peu les murs, etc. Donc les coffres et les coffrets, on a toute une série d'éléments au-delà des clés. Hein. On a les éléments qui étaient les éléments de charnière, alors charnière de coffre, charnière de volet, de porte. Tout ça a été conservé par centaines. Des décors en os, là j'ai mis un exemple qui ne vient pas d'Andonne, mais qui est plus complet. On a beaucoup de petits coffrets qui sont entièrement décorés sur leur structure en bois de plaques d'os avec des éléments gravés. On en a effectivement des dizaines, ce fait fragile. De temps en temps, ils devaient changer ces éléments qui étaient brisés. Donc voilà pour ce qui est du mobilier ou de ce qu'on appellerait aujourd'hui le second œuvre architecturale, hein, les aménagements qui viennent à la fin de la construction. Entrons maintenant plus en détail dans la vie quotidienne assez particulière du groupe qui habitait dans le site. Donc, je viens de vous dire que le comte était là de temps en temps, quand il allait à la chasse, sans doute en particulier. Il arrivait donc avec une suite nombreuse à ce moment-là. Le reste du temps, qui fréquentait le site? Des gens beaucoup moins reluisants, quelques gardiens du château, qui n'étaient pas obligatoirement nobles, très loin de là à ce moment-là. Et puis quelques serviteurs, quelques paysans qui entretenaient le site. La classe militaire qui dirigeait le site est une catégorie sociale qui est fascinée en particulier par deux choses qui montrent son mode de vie, ce sont les chevaux et les armes. Les chevaux ont laissé énormément de traces sur le site puisqu'on a un peu plus de 8000 objets qui se rapportent à l'équitation. Ces animaux, ils sont de toutes sortes. On a évidemment les chevaux, qui eux-mêmes se déclinent en toute une série de qualités. Le destrier, le cheval de combat, c'est à cette époque-là un animal qui peut valoir un prix considérable. On a des chevaux qui valent le prix d'un domaine entier, par exemple. Et puis, on a après des animaux plus modestes, hein, ce qu'on appelle le roncin, qui va tirer la charrette, et effectivement un animal qui est beaucoup moins noble. Et on a toute une série de catégories intermédiaires. Les prix vont de 1 à 1000 à l'intérieur de ces animaux. On découvre aussi des mules et des mulets, donc des croisements. Les mules et les mulets contrairement à ce qui se passera plus tard, sont très appréciés à cette époque-là. On a même des chevaliers hein, qui vont à la guerre sur des mules à ce moment-là. Donc on peut aussi avoir des animaux de prix. Et puis après, il y a un animal qui est beaucoup moins considéré et beaucoup moins bien traité, qu'on voit ici grâce à la tapisserie de Bayeux. C'est l'âne hein, qui est présent dans le site et on voit qu'effectivement la vie des ânes est beaucoup plus difficile que celle des destriers. Se rapportent à ces animaux toute une série d'éléments. Vous voyez ici quelques exemples de morts. Donc on a deux catégories de morts. La plus présente est celle-ci. Ce sont vraiment des morts qui sont des morts de combat hein, pour diriger les chevaux, des morts qui sont assez contraignants, mais je crois qu'ils ne brutalisent pas des chevaux d'un tel prix malgré tout. Et puis qui servent aussi pour le dressage des animaux. Pour la promenade, on utilise plutôt les morts comme celui qui apparaît en bas. Une dizaine ont été conservées sur le site. Un élément très fréquent, parce qu'il est relativement fragile, ce sont les éperons. Une quarantaine ont été découvertes. Vous en voyez quelques exemples ici. La manière dont les lanières de cuir s'ajuster à la chaussure, une reconstitution récente du même type. On n'a pas deux éperons différents, ils sont adaptés aux pieds de chacun des cavaliers, adaptés probablement aussi à chacune des montures. On en a qui sont pour des adultes, quelques-uns qui concernent des enfants, qui apprennent très tôt l'équitation. Un élément qui a été très longtemps négligé, mais qui est ici extrêmement abondant, c'est le fer à cheval. Le fer à cheval, c'est une nouveauté à cette époque-là. Les Romains ne connaissaient pas le fer à cheval, le Haut Moyen-Âge non plus, et à une date imprécise du Xe siècle, on voit cette nouveauté très importante qui apparaît. Donc là, on est sur une attestation précoce de fer à chevaux. 400 ont été découverts. Visiblement, on connaît ceux qui mettent en place les fers sur les chevaux sont des très bons techniciens qui connaissent aussi bien la métallurgie que la médecine du cheval. Ils ne blessent pas les chevaux. Ces fers sont changés à peu près toutes les 5 semaines, ce qui fait qu'on a une très grande quantité de fers abandonnés sur le site et énormément de clous, près de 7000 clous découverts sur le site. Donc une très bonne maîtrise avec des fers qui sont très différents des fers postérieurs ou actuels et quelques fers très particuliers que vous voyez ici. Ce sont des fers orthopédiques, c'est-à-dire des fers pour des animaux qui sont malades, qui boitent par exemple. Alors on connaissait ce type de fer par des traités venus de l'islam au XIIIe siècle. Là on a une attestation en Occident, 3 siècles avant, qui est tout à fait intéressante et pratiquement unique pour l'instant. Et puis d'autres éléments toujours liés aux cavaliers, toutes les séries de boucles qui permettent de tenir les sangles liées à la selle, par exemple. Le fait de trouver des étrilles qui permettent de brosser les chevaux. Là, la forme n'a pas tant changé depuis lors, avec des petites dents aux extrémités ici. Et puis deux éléments un petit peu marginaux, ce sont des éléments qui sont liés à des attelages, donc à des charrettes, dont les plus petits modules pouvaient entrer à l'intérieur du site. Donc ces chevaux sont donc extrêmement présents et les prairies humides en contrebas du site permettaient aussi de les entretenir relativement facilement. L'autre passion de ces gens-là, c'est quand même de se battre. Là aussi, un apprentissage très précoce. Alors n'imaginons pas qu'on va trouver les armes classiques du chevalier à l'intérieur d'un site comme celui-ci. On ne trouve jamais d'épée dans les sites d'habitat. C'est un objet à la fois trop précieux et trop symbolique pour qu'on le laisse traîner, même quand il est cassé. Sur ce site, on n'a pas trouvé non plus de lance. On en trouve dans quelques autres sites de cette époque-là. Et pratiquement toutes les armes découvertes sont en fin de compte des armes, soit des armes médiocres, pas très bien vues par la classe chevaleresque, les armes qui permettent de tuer de loin, les armes de lâche. Et puis, surtout des armes qui servent à aller à la chasse, et c'est probablement le cas de la majeure partie des objets que je peux vous présenter. Autre innovation du Xe siècle, qui est un siècle où on a inventé beaucoup de choses, il faut le réhabiliter, le Xe siècle, c'est l'arbalète. L'arbalète, donc une arme qui permet une cadence de tir moins importante que l'arc, mais qui a une puissance qui va se développer grandement au fil des siècles du Moyen-Âge. La première représentation qu'on en ait, à peu près à l'époque de la fondation d'Andonne, dans un manuscrit bourguignon. Ce qu'on trouve sur le site, ce sont deux objets. Le premier, il est ici. C'est ce qu'on appelle la noix d'arbalète. C'est le petit élément qui tourne, mais qui retient la corde. et qui tourne à partir du moment où vous appuyez sur la gâchette, hein, que vous voyez bien ici dans la main du personnage. Voilà les gâchettes en bois de serre, hein, par dizaines, elles étaient visiblement très fragiles, découvertes sur le site. À côté de ça, des arcs qui n'ont pas laissé de traces, mais qui étaient utilisés, hein, en témoignent la très grande variété des pointes de flèches qu'on peut découvrir, chacune étant spécialisée, hein, pour une chasse ou un type de guerre particulier. Pour les arbalètes, on a le plus souvent des carreaux, hein, c'est-à-dire ces éléments extrêmement fins qui peuvent se glisser dans la fente que vous voyez ici, au milieu de l'arme. Donc là aussi, des objets qui sont présents par centaines. Pas de lance de guerre en tout cas, mais des épieux, hein, les épieux qui, dans l'iconographie de cette époque-là, dans les miniatures, sont l'arme privilégiée pour chasser le sanglier, hein, le corps à corps le plus noble qu'on puisse avoir, puisque là, on prend quand même des risques importants. Découverte aussi d'un certain nombre de plaques métalliques, pratiquement circulaires, qui sont des écailles d'armure. On parle très souvent de la côte de maille, elle est visiblement très peu développée à cette époque-là. En revanche, on a ces armures qui sont des agencements d'écailles en fer sur des supports en cuir. Extrêmement efficace sans doute, pas très pratique pour avoir des mouvements rapides sans doute. Et donc ça sera petit à petit abandonné dans les siècles suivants. Et puis le dernier élément de cette image, un petit peu marginal par rapport aux armes, mais pas tant que ça, c'est le fait d'avoir découvert des dizaines de fragments de corps. Le corps est ici en céramique, hein, des objets très lourds, très fragiles, est assez long. Certains font 60 cm de longueur, quelquefois avec des attaches qui permettaient de les porter autour du cou ou à l'épaule. Alors le corps, à cette époque-là, c'est aussi un objet extrêmement symbolique, hein, que vous allez rencontrer partout dans la littérature médiévale par la suite. Il sert à plein de choses. Il ne sert pas à faire de la musique, parce qu'on ne peut pas dire qu'on fasse de la musique avec un corps, hein, on fait deux notes au maximum. Ça sert à la chasse, à la guerre, ça sert à l'alerte. Vous voyez ici un personnage qui est en haut d'une tour sur un graffiti de la même région en train de sonner du cor. Mais ça sert aussi à un certain nombre d'utilisations qui sont moins guerrières, en particulier à sonner l'eau. Sonner l'eau, dans les textes, ça veut dire quand les serviteurs doivent amener les récipients qui permettent aux invités de se laver les mains avant de passer à table. Et assez étrangement, on donne les deux concentrations de ces objets, sont pour les unes derrière les portes, comme si on était à l'emplacement du guetteur qui laissait de temps en temps tomber son corps, depuis le haut de la muraille, et puis à l'intérieur de la grande salle, pour peut-être une utilisation liée plutôt au repas. Donc au-delà de ces activités de guerre, de chasse et d'équitation qui sont parmi leurs plaisirs, on a des plaisirs un peu plus intellectuels dans un site comme celui-ci. Une autre innovation de l'époque, même si elle a été inventée en Orient beaucoup plus tôt, c'est l'apparition du jeu d'échecs qui fascine les Occidentaux. C'est un jeu de guerre. Ils n'y comprennent pas grand-chose, ils vont petit à petit le réinventer. Là, on est sur... parmi les plus anciennes pièces d'échecs conservées, les premières pièces d'échecs occidentales sont du milieu du Xe siècle, on est quelques décennies plus tard. On a entre autres une pièce ici qui était dans les pièces islamiques d'origine ou indiennes d'origine, un char avec des chevaux, qui deviendra par la suite la tour, avec cette schématisation, et puis deux pions qui apparaissent ici. Hélas, la belle mosaïque du fond n'a pas été découverte à Andon. Ce jeu d'échecs, c'est un jeu qui, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, et même un peu après, va être un jeu strictement aristocratique. Ça fait partie de la petite liste de tout ce que doit apprendre un futur chevalier, avec l'équitation, les armes, parler aux dames, faire un peu de musique et jouer aux échecs. Jouer aux échecs, mais aussi jouer à un autre jeu qui est les tables, qu'on appellera plus tard le trictrac, aujourd'hui le backgammon, donc ce jeu de poursuite sur un tablier, qui a laissé toute une série de pièces, avec des représentations d'animaux fantastiques qu'on retrouve dans la sculpture romane de la même époque. Une fois que je vous ai parlé de ça, j'ai fait la liste d'à peu près toute l'activité intellectuelle de ces gens-là qui a laissé des traces. Ce ne sont probablement pas des grands intellectuels. On n'a aucun élément lié à l'écriture, par exemple, dans le site. Alors, j'ai quand même mis en marge ce petit élément de flûte dans un tibia d'oiseau, mais c'est peut-être un appôt pour la chasse plutôt qu'un instrument de musique. Donc on n'est a priori pas vraiment chez des intellectuels. Ce qui les passionne, et ce qui a laissé aussi énormément de traces, c'est donc la chasse qu'on a vue tout à l'heure à travers les armes, mais qu'on a pu aborder en étudiant à peu près 70 000 ossements d'animaux, ce qui est une petite fraction de ceux qui ont été découverts sur le site. Dans le site d'Andon, on va avoir, je ne vais pas vous détailler ces images-là, mais c'est juste pour vous montrer, d'un côté on a ici la venaison, c'est-à-dire le gros gibier, les cerfs, les sangliers, de l'autre côté, la basse venaison, c'est-à-dire le lièvre, par exemple, les animaux plus petits et quand même plus faciles à chasser. Dans un site aristocratique de cette époque-là, on a souvent 1% des ossements d'animaux qui correspondent à ces espèces chassées. Ça veut dire que la chasse n'est absolument pas un besoin. On peut très bien s'en passer. On a tout ce qu'il faut pour manger avec la viande d'élevage. C'est un besoin social. Ce n'est pas un besoin alimentaire. Andon est assez nettement au-dessus de ce petit pourcentage habituel, puisqu'on est aux alentours de 3% de bêtes sauvages qui ont été consommées, ce qui est un des plus forts taux qu'on connaisse aujourd'hui. Ces animaux, on les chasse en toute saison. Le petit graphique qui est en dessous, ça montre la saison de chasse des animaux classiques, ou alors le moment où des animaux migrateurs sont présents dans la région. Il y a toujours quelque chose à chasser, quel que soit le mois de l'année, mais il y a des périodes particulières. La période de la chasse aux cerfs, en particulier à l'automne, était peut-être une période où le comte d'Angoulême était plus présent dans son château. Parmi ces animaux, le plus présent et de loin, c'est le cerf, un animal extrêmement noble qui a pratiquement disparu aujourd'hui de la forêt de la Boixe. Le chevreuil est très peu présent. Aujourd'hui, il a envahi tout cet espace. Le sanglier est sans doute sous-représenté. À une époque où les porcs et les sangliers se mélangent à l'automne dans les bois, on a, chez les animaux jeunes, entre autres, une difficulté à les identifier. Le terme savant de lagomorphe recouvre les lièvres. Les lapins sont en train d'arriver du sud, ne sont pas encore arrivés dans la région. Et puis, on a une très grande diversité d'oiseaux sauvages aussi qui sont chassés. Ces animaux, on va les chasser avec des chiens. Alors, on ne peut pas définir à partir des ossements une race précise telle que celle qu'on voit aujourd'hui. On sait simplement qu'on a des chiens qui sont plutôt des chiens de compagnie, petits, ou des chiens terriers, et puis des grands chiens, qui sont les molosses, qui permettent d'aller faire la chasse à court. Mais on a aussi un autre moyen de chasse, ce sont les rapaces, avec l'animal le plus apprécié à cette époque-là, qui est l'autour des palombes, le plus présent et le plus cité dans les textes. On a aussi des faucons, également très appréciés. Et puis les autres, ne sont pas des animaux de chasse, puisque la buse est très difficile à dresser. Le milan noir ne mange que du poisson. Le circaète ne mange que des charognes, ce qui n'intéresse pas beaucoup des chasseurs. Et la bonderie apivore, comme son nom l'indique, ne mange que des insectes, ce qui n'intéresse pas non plus les chasseurs. Mais on a au moins des animaux présents qui n'ont pas été consommés, visiblement, qui étaient les auxiliaires de chasse de cette troupe de nobles. Ces oiseaux, ces rapaces, servaient en particulier à la chasse aux différents oiseaux, et la très grande diversité des ossements d'oiseaux montre que les comtes d'Angoulême pouvaient bénéficier de toute une série de biotopes différents. On a des oiseaux qui sont des oiseaux de champ, comme la perdrix, par exemple. On a des oiseaux qui sont plutôt des oiseaux des bois, comme la palombe. Beaucoup d'oiseaux d'eau, on avait les marécages de la Charente en contrebas du site. Et puis les oiseaux les plus appréciés sur les tables de cette époque, ce sont les grands échassiers, le héron, la cigogne, le cormoran peut-être, si tant est que ça soit vraiment mangeable. D'autres animaux sauvages qui apparaissent beaucoup plus ponctuellement et qui sont assez anecdotiques, quelques animaux peut-être chassés pour leur fourrure, des écureuils, des renards par exemple, des animaux qu'on a déjà rencontrés comme des commensons de l'homme à l'intérieur du site, qui profitent des restes de repas, et puis des animaux qui nous montrent la proximité de l'espace humide au pied du site, le fait d'avoir des tortues, des cistudes, le fait d'avoir des grenouilles, des crapauds, et puis quelques restes de poissons, mais ils ont été assez peu étudiés. C'est des prélèvements particuliers qui n'ont pas été faits à l'époque de la fouille. Donc on n'a que les très gros poissons à analyser, et en particulier le fait d'avoir d'énormes esturgeons, des esturgeons de près de 2 mètres. Un peu partout dans l'Europe de cette époque-là, la pêche d'un esturgeon est quelque chose qui est systématiquement récupéré par le pouvoir. Les rois d'Angleterre avait le monopole des esturgeons des fleuves de leur royaume. Ça a pu être la même chose pour les comtes d'Angoulême qui ont donc récupéré ces esturgeons qui, à cette époque-là, ce n'est plus le cas aujourd'hui, remontaient la Charente. Ces éléments d'alimentation nous permettent de passer assez logiquement à la cuisine. J'ai quelques éléments normands quand même, hein, mais c'est difficile d'éviter l'iconographie de la tapisserie de Bayeux qui est effectivement tellement unique pour son époque. Donc, en haut, le banquet avant la bataille d'Hastings et en bas, la vaisselle trouvée sur le site hein, par des dizaines de milliers de fragments, extrêmement monotone. On a des pots à cuire, très noircis par le feu, comme celui-ci, puis on a des cruches qui permettent de contenir tous les liquides. Hein, c'est 95% du vaisselier qui n'est pas très varié. Je ne pense pas que la cuisine était très variée non plus à cette époque-là. Alors pourquoi est-ce qu'on a autant de vaisselle cassée ? Pas parce qu'on était plus maladroit en faisant la vaisselle qu'aujourd'hui, mais parce que tous ces vases pouvaient être spécialisés, étaient assez poreux et très vite ils prenaient un goût de rance en fonction de ce que vous mettez à l'intérieur. Donc là on est obligé de changer, de casser la vaisselle pour la remplacer. Quelques formes un petit peu particulières mais très rares sur le site, des gourdes qui permettent d'emporter une petite quantité de liquide à l'extérieur, un certain nombre de couvertes qui ressemblent à nos couvercles de théière actuels, ces très grandes vases réserves enfouies dans le sol que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, qui peuvent contenir plusieurs centaines de litres de céréales, et puis une série de vases assez particuliers qui sont des vases décorés avec des glaçures, une glaçure au plomb, ce qui n'est pas très bon pour la santé, mais qui apparaît aussi à cette époque-là, ou réapparaît à cette époque-là. Ces vases sont tous des vases de petite taille par rapport aux autres, avec des formes particulières. C'est visiblement de la vaisselle de table, dont ces vases, qui sont des vases avec trois becs, permettant de verser le liquide, et une seule anse sur un côté, que nous avons interprété comme des saucières, donc une cuisine un peu plus élaborée, avec des sauces un petit peu compliquées. Ce qui confirme l'existence de ces sauces un petit peu particulières, c'est la présence exceptionnelle à l'époque de mortiers, et puis un certain nombre de mentions dans cette région, à Montignac, entre autres, de poivre, donc des épices tout à fait exotiques, et quelque chose qui était extrêmement coûteux à cette époque-là. Donc on a la cuisine d'un peu tout le monde, mais on l'améliore par les sauces. Hein, c'est l'impression générale que cela donne. Un autre élément important, c'est la boisson. Là aussi, avec une vaisselle un peu particulière, c'est des verres riz, de la vaisselle en verre qui représente uniquement de la vaisselle à boire. Ici, fragmentaire, vous voyez ici à quoi ça peut ressembler. Ce sont des vases avec un fond pointu, donc on ne peut pas poser, qui oblige soit à passer un très grand verre à son voisin pour qu'il le finisse, soit effectivement à tout boire et à retourner son verre sur la table, comme on le voit dans certaines miniatures. Le verre, là aussi, est une innovation. Pendant des siècles, depuis l'Antiquité, le verre n'est pas une matière première fabriquée en Occident. L'ensemble du verre est fabriqué en Orient et importé soit sous forme de verreries déjà fabriquées, soit sous forme de lingots, qu'on va transformer après en Occident. À partir du 9e, 10e siècle, on met en place, en y ajoutant un certain nombre d'éléments, dont de la cendre de fougère, des verres qui sont des verres fabriqués localement, c'est les premiers verres fabriqués localement. Alors pendant très longtemps, ils ont assez peu intéressé les archéologues parce que effectivement, ils ne sont pas très beaux et en plus, ils se sont mal conservés. Mais on est effectivement là aussi sur une innovation tout à fait récente dans ces régions. Donc voilà quelques éléments sur la vie de tous les jours, les activités. Il y a d'autres activités que la guerre, la chasse et l'équitation, puisqu'on est quand même dans un site qui est au centre d'un domaine, donc les paysans ne sont pas là, ils sont probablement à côté, en contrebas, dans des parties qui n'ont pas été fouillées. Mais on a malgré tout un écho de cette vie rurale qui apparaît à travers une série d'outils. Vous en voyez quelques-uns ici, des outils qui servent à abattre les arbres, une cognée, un émondoir qui permet de récupérer des branches, il en faut tous les jours pour le feu. Une petite faucille ou serpette présentée ici, quelques autres instruments qui nous marquent des activités de collecte plutôt agricole ou de collecte de bois. Un autre objet qui a pu servir aussi bien pour le travail de la terre que pour la construction du site, c'est une houe que vous voyez ici dans son état de conservation actuel. Alors j'ai mis ce petit dessin à côté que j'aime bien parce que il vient d'un manuscrit autographe. Hein, on sait quel moine a fait ce manuscrit et il a mis des petits dessins dans les marges. Ce moine, c'est un personnage célèbre chez les médiévistes. Il s'appelle Adhémar de Chabannes, qui était moine d'Angoulême puis de Limoges, qui a écrit l'histoire des contes d'Angoulême, qui est notre source principale pour l'histoire de ce château et de ses alentours. Donc voilà, dans les marges de son manuscrit original, un petit dessin où il montre exactement le même objet que celui qu'on a découvert sur le site. On a vu que les animaux sauvages ne représentaient qu'une toute petite partie de l'alimentation carnée, donc le reste, ce sont des animaux domestiques, mais avec un élevage un petit peu et une consommation un peu particulière par rapport à un site paysan de la même époque. Ce qui marque tout de suite, c'est l'abondance tout à fait exceptionnelle du porc. Dans certains espaces, les espaces les plus nobles autour de la grande salle, le porc est présent pratiquement à 80% des restes. Donc une énorme consommation de porc. Alors pourquoi le porc par rapport aux autres animaux comme les moutons, les chèvres ou les bovins ? D'abord parce que le porc est un animal plus luxueux. C'est le seul de ces grands mammifères qu'on élève uniquement pour sa viande. Le bœuf ou la vache peuvent servir pour le lait ou la traction de la charrue. Les moutons et les chèvres peuvent servir aussi pour le lait et la laine. Le porc ne sert qu'à la consommation humaine. Et puis on a vu que c'était aussi un animal qui à l'époque était relativement proche dans sa physionomie du sanglier. Et le sanglier est quand même un animal très valorisé par cette classe chevaleresque du Moyen-Âge. Donc il mange énormément de porc, beaucoup plus que dans les autres sites. Et ça, on le voit très bien quand on fait des proportions. On voit que dès qu'on est sur un site, sur un château ou un site aristocratique, on a un graphique ici qui montre que le porc est extrêmement important par rapport aux autres espèces qui sont consommées. Ce que vous avez à côté, c'est une radiographie. L'objet n'a pas été restauré. Ce sont des clarines de mouton. Alors deux, il y en a une qui est enfoncée dans l'autre. Et vous avez le battant qui est présent ici. Donc la petite cloche pour le mouton ou la chèvre. Alors un site où on a beaucoup mangé, beaucoup rejeté, et on peut se dire que ces gens-là avaient les moyens de gâcher. En réalité, j'en doute beaucoup, puisqu'on s'aperçoit qu'ils se sont comportés en bons pères de famille, dirait-on aujourd'hui, par rapport aux animaux qu'ils élevaient. La courbe que vous avez ici, c'est les âges où on a tué les porcs. Et c'est une courbe tout à fait traditionnelle. C'est la courbe d'un élevage rural jusqu'au 19e siècle. Aujourd'hui, on est sorti évidemment de ces logiques-là, mais on a des animaux très jeunes qu'on tue tout de suite parce que c'est des animaux qui ne sont pas viables. Après, on a un goût pour le très tendre cochon de lait. On va tuer d'autres animaux pour ne pas avoir à les engraisser. Après, on a, à la fin de la première année, un abattage relativement massif pour avoir de la viande fraîche. La deuxième année, on va continuer à engraisser. Et pendant la deuxième année, on va faire un autre abattage important qui permet en particulier de l'avoir de la viande de conserve, de la viande qui est salée ou fumée, par exemple. Et puis, on a quelques vieux animaux qui servent à la reproduction et qui seront tués beaucoup plus tard. N'importe quelle ferme de cette époque-là aurait la même chose. Donc, ce ne sont pas des gens qui vivent sur le pays en rasiant, ce sont des gens qui font eux-mêmes de l'élevage et qui ont une gestion raisonnée des animaux qu'ils vont élever. À côté de ça, il y a des animaux qui sont élevés directement à l'intérieur du site. On a une basse-cour qui est présente sur place, à peu près moitié-moitié des oies et des poules et des coqs. Et puis un animal qui, là, est toujours un très bon signal des élites du Moyen-Âge, c'est le fait d'avoir un paon. Alors, le paon est extrêmement décoratif, comme vous le savez. Au Moyen-Âge, on l'utilisait aussi pour les tables de grands banquets. On présentait le paon dans ses plumes qui faisaient la roue. Alors, ça faisait évidemment de l'effet sur la table. Mais les premiers livres de cuisine, un peu plus tard, nous avouent que c'est quand même un peu dur et pas très bon à manger. Toujours est-il que ça décore et que ça permet de tenir son rang. On a aussi d'autres activités. Et je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant des femmes. Les femmes sont à peu près invisibles dans le mobilier de ce château, comme c'est assez souvent le cas. Les seuls éléments qu'on peut leur rapporter, ce sont différentes étapes de l'artisanat des textiles, c'est-à-dire de la laine ou des plantes textiles, comme le lin ou le chanvre, qui étaient cultivés en contrebas du site. Donc on a quelques étapes qui apparaissent, le fait d'avoir des forces qui permettent de tondre, ces grands ciseaux qui permettent de tondre les moutons, peigne à carder pour peigner la laine et la débarrasser des impuretés, un élément qui est lié à une extrémité de fuseau, et puis un certain nombre de fusaioles, hein, ces petits pois qui permettaient de lester le fuseau et de le faire tourner facilement pour faire du fil. Il nous manque les étapes ultimes représentées ici sur cette miniature, c'est-à-dire le tissage, mais les métiers à tisser de cette époque-là ne laissent pas toujours de traces archéologiques. C'est peut-être uniquement des éléments en bois. Toujours est-il que là, c'est le seul élément féminin, puisque c'est une activité qui est toujours féminine à cette époque-là, qui apparaît sur le site. Vous avouerez que ce n'est pas grand-chose. Donc un artisanat sans doute modeste, à usage simplement des habitants du site. On revient dans une activité plus masculine, avec tout ce qui concerne le métal et le fer en particulier. Les autres métaux sont extrêmement peu présents sur le site. Le cuivre est très, très rare à ce moment-là. En revanche, des milliers d'objets en fer suffisamment abondants pour qu'on ne récupère pas l'ensemble du fer. On en jette une très grande quantité. Cette métallurgie, elle apparaît à travers les deux forges successives installées dans le site. C'est une métallurgie qui est une métallurgie de transformation de barres de métal ou de transformation de fer de récupération. On ne fait pas des objets complexes sur le site et on n'a pas un forgeron ou un maréchal ferrant à plein temps. On imagine que le maréchal ferrant passe pour refaire les chevaux, en profite pour fabriquer un certain nombre d'objets, pour réparer l'outillage, entretenir l'outillage, et puis c'est à peu près tout. Tous les objets complexes viennent d'ailleurs, sont achetés ailleurs. Alors cette métallurgie, visiblement, elle est à peu près mensuelle, puisqu'on a découvert ce genre de scories, ce qu'on appelle des culots. C'est le fond du four qui est utilisé par le forgeron. Un bloc comme ça correspond à une journée de forge. Donc il suffit de les compter. Et effectivement, sur la durée assez faible d'occupation du site, on a à peu près une journée de forgeron par mois qui a été faite. Quelques éléments de barre de fer utilisés pour fabriquer des objets, puis des éléments récupération, le fait d'avoir, par exemple, ces fers à chevaux qui sont repliés pour être rebattus avec le marteau, là qui montre du recyclage. On a les objets du forgeron et du maréchal ferrant, une petite enclume qui sert à fabriquer des clous, fabriqués en très grand nombre, on a beaucoup de clous neufs fabriqués sur le site, voire des clous inachevés. Le marteau qui permet à la fois de taper sur le fer, mais aussi d'enlever les clous avec cet arrache-clou à l'extrémité. Les tenailles jetées ici parce qu'une des branches était cassée. La métallurgie, globalement, est de très bonne qualité. On s'est permis de scier des objets en fer pour regarder la technique. Tous les tranchants des outils sont des tranchants avec des parties en acier qui sont rapportées. Et on est vraiment sur une très bonne maîtrise de la métallurgie du fer. Donc ce qu'on fabrique, j'ai oublié de vous dire ce qu'on fabriquait, ce qu'on fabrique, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des consommables, c'est-à-dire le fer à cheval, les clous pour le fer à cheval, les carreaux d'arbalète qu'on devait perdre en très grande quantité, et puis quelques éléments qui étaient des éléments de restauration. Donc des choses qui sont des objets relativement simples et utilisés en très grande quantité et perdus en très grande quantité chaque mois sur le site. Un autre artisanat extrêmement modeste, c'est l'artisanat du bois de serre. On va tuer des serres, ramener leur bois, ou plutôt, parce que le bois est de meilleure qualité, on va récupérer des bois de serre en forêt, au moment où, par le cycle annuel, ces bois vont tomber. Ce sont des bois qui sont beaucoup plus denses. Et on va fabriquer avec ça quelques objets. Alors, parler d'un artisanat, comme je l'ai fait dans le titre, est peut-être un petit peu abusif. Si on met ces morceaux bout à bout, on doit avoir une dizaine de serres sur 50 ans. On est sur une activité qui était extrêmement ponctuelle, mais assez spécialisée. On peut imaginer là aussi qu'il y a un artisan qui vient pour transformer le petit stock de bois de serre qui a été récupéré. Donc là aussi, ça permet de faire des pièces utilisées. Ce n'est pas pour faire du commerce. On est sur une série de pièces qui sont uniquement utilisées pour la vie quotidienne des habitants. Des pièces de jeu, des pièces d'échecs. Celle-ci qui est inachevée, par exemple, si j'arrive à mettre un peu de lumière, qui est inachevée. Des morceaux d'arbalète qu'on cassait visiblement extrêmement souvent. Des petites plaquettes qu'on décore après pour ces coffrets que je vous ai montrés tout à l'heure. Et puis, c'est à peu près tout. Tout ça a laissé toute une série de restes. On voit des morceaux qui ont été sciés, comme celui que vous voyez ici à votre droite. Cette activité, elle a surtout lieu dans la salle basse, sous la grande salle de réception. On a l'impression que là, on amène soit les serres après la chasse, soit les bois, et que c'est là qu'on fabrique ces différents objets en majorité. tout ce que je viens de vous raconter donne l'impression d'un site qui vient un petit peu en autarcie. On fabrique beaucoup des objets qu'on va utiliser. Alors essayons de regarder qu'est-ce qu'il y a comme signaux qui nous montreraient des objets qui viennent de l'extérieur. Des monnaies permettant les échanges. Sur l'ensemble du site, 2000 m², on a 20 monnaies, ce qui n'est pas énorme. Ce sont toutes des monnaies en argent. 17 de ces monnaies sont des monnaies frappées par les comtes d'Angoulême, donc leurs propres monnaies, qui sont des monnaies neuves. Ce n'est pas le signal d'une économie monétaire extrêmement active. Et les autres monnaies sont des monnaies qui viennent des cités voisines, Poitiers, Périgueux, Limoges. Donc les éléments exotiques, il faut les chercher un petit peu ailleurs, et on peut penser que les éléments luxueux et exotiques ne traînent que relativement peu dans les poubelles du château d'Andonne. Mais on en a quand même quelques éléments parmi les centaines de milliers de fragments découverts. Cet objet est une fibule, c'est une agrafe de manteau qui permettait d'agrafer le manteau à l'épaule pour les hommes, un objet émaillé, c'est un des plus anciens émaux qu'on ait pour cette époque-là. Il y a eu une dispute entre spécialistes sur son origine, mais de toute manière elle est lointaine, soit elle vient du sud du monde germanique, c'est-à-dire du nord de l'Italie actuelle, soit elle vient de l'Angleterre, de la région de Winchester en particulier. En tout cas, c'est un objet exotique, une fois qu'il a été trouvé à Angoulême. D'autres objets du même type, cette fois-ci, sont plus clairement localisés. C'est le même genre de production, mais beaucoup plus modeste, en étain et en plomb. Donc des choses qui sont fabriquées en grande série et qui ne coûtent pas cher, mais qui viennent aussi de quelque part au nord de l'Angleterre actuelle. Un objet qui nous a posé beaucoup plus de problèmes, c'est un tout petit tesson qui fait 2 cm de haut. Là, il est démesurément grossi sur l'image, qui ne ressemble absolument pas à la céramique que vous avez vue tout à l'heure. C'est une céramique qui ressemble à de la porcelaine, extrêmement bonne qualité. Et à force d'analyse, on a réussi à identifier l'origine. C'est une production qui vient du site de Raqqa, en Syrie, dont on a beaucoup parlé pour d'autres raisons ces dernières années, et qui est elle-même une imitation de la céramique Céladon, donc des céramiques chinoises. Donc là, on a un espace qui s'ouvre considérablement par rapport au site d'Andonne. Les analyses des verres ont montré qu'on avait aussi d'autres éléments qui étaient des éléments assez lointains. On a des petits flacons à parfum qui viennent aussi du Proche-Orient, d'autres éléments qui sont des mélanges qu'on découvre plutôt dans le monde germanique, et puis ces verres locaux qu'on a vus tout à l'heure avec un verre à boire. Et puis, dernier objet un peu exotique, ce sont des perles en verre, un morceau d'un collier cassé, qui ressemble à de l'ambre, mais qui sont extrêmement lourdes. C'est bien du verre, mais c'est un verre au plomb, 70% de plomb à l'intérieur. On a fouillé récemment des ateliers dans les faubourgs des villes anglaises de cette époque-là, à York en particulier. On est encore sur une production anglo-saxonne ou anglo-danoise. Donc voilà quelques éléments qui nous donnent une idée du luxe des comtes d'Angoulême, mais ce sont vraiment des fragments au milieu des éléments de la vie quotidienne. Les textes nous en disent plus. Les textes nous disent, par exemple, que quand Guillaume Taillefer, qui a abandonné le site, meurt, il fait donner des chandeliers sarrasins qui pèsent 150 livres, donc à peu près 70 kilos d'argent. Donc le trésor des comtes d'Angoulême existe, mais il n'est pas dans leur résidence d'Andonne. En revanche, ce personnage avait une envergure européenne. Je finis avec ça. Ce que vous voyez ici, c'est l'itinéraire du grand pèlerinage que le comte Guillaume a fait pendant 2 ans pour aller jusqu'à Jérusalem. Ce voyage collectif a été financé par le duc de Normandie. Accompagné le comte d'Angoulême, toute une série de grands personnages, ils se sont réunis à Verdun, donc dans les marges du monde germanique, un grand marché entre les deux régions. Ils ont traversé le monde germanique et la Hongrie, qui venait de devenir chrétienne. Ils sont descendus pour être accueillis par l'empereur de Constantinople, ont fini par Jérusalem, et puis sont revenus une année plus tard par un itinéraire un petit peu différent. Donc voilà un personnage qui a vu du pays, qui est allé pratiquement fêter toutes les fêtes de Pâques à Rome, avec le duc d'Aquitaine, qui est probablement allé à Saint-Jacques-de-Compostelle, dont on a gardé des correspondances avec des rois espagnols, avec le roi de France de l'époque. Donc on est sur un personnage de très grande envergure, ce que ne montre pas tout à fait le mobilier découvert dans son site. Alors, qu'est-ce qui reste de ce site aujourd'hui? Il reste deux choses, une publication particulièrement indigeste, une salle consacrée au site au musée d'Angoulême, qui a été refait il y a quelques années. Quant au site lui-même, il ressemble à ça aujourd'hui. Hein, c'est une propriété privée qui n'a pas été mise en valeur. Donc, sans doute, les arbres protègent-ils plus ou moins les vestiges du pillage, mais ils commencent aussi à pousser les murs de ce site que j'aimerais bien voir restaurer dans quelques années, si ça pouvait être possible. Je vous remercie de votre attention.